Vous écoutez RTL.
RTL Matin.
On n'est pas forcément d'accord.
8h20, on n'est pas forcément d'accord aujourd'hui avec Nicolas de Menac. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Alors, demain 22 mars, doit avoir lieu la journée de mobilisation des fonctionnaires et des cheminots. Vous avez entendu le président de la SNCF sur notre antenne à 7h45. Du coup, beaucoup songent au 22 mars 1968. Mais pour vous Nicolas, ça n'a vraiment, mais alors vraiment rien à voir.
Oui, rien de rien Yves Calvi. Pourtant, 22 mars attaque, on a cette date qui clignote dans la tête comme un feu rouge. Une date qui fascine sans qu'on se souvienne très précisément de ce que fut ce 22 mars 68 qui préfigura le tourbillon révolutionnaire de mai et qui n'a apparemment rien de commun avec la journée de mobilisation de demain, quelle que soit son ampleur, et elle pourrait ne pas en manquer. Mais suivez-moi bien dans ce voyage au pays de nos souvenirs d'agitateurs.
Ah bah parce que vous étiez de la partie, évidemment.
Eh oui, jeune lycéen, très engagé dans la lutte contre la guerre au Vietnam, comme nombre de sacripants de l'époque, j'étais très proche de l'ébullition. Je me souviens parfaitement d'abord de l'agitation qui précéda ce 22 mars, jour où une grosse centaine d'enragés libertaires et situationnistes occupèrent la faculté de Nanterre. Ils réclamaient d'avoir accès au dortoir des filles, ce qui peut faire rire aujourd'hui. Mais il faut se rappeler que la loi Neuwirth autorisant la contraception datait de quelques mois. Il y avait une puissante aspiration à la mettre en pratique et à obtenir ces libertés auxquelles rechignait le gaullisme vieillissant. C'est ainsi que le ministre de la Jeunesse de l'époque, François Missoff, avait été interpellé rudement par Daniel Cohn-Bendit quelques mois avant, alors qu'il inaugurait la piscine de Nanterre. Vous présentez un rapport de 400 pages sans un mot sur la sexualité juvénile, lui lança le chef des enragés. Et si vous avez des problèmes sexuels, plongez dans l'eau, lui répondit le ministre. C'est le genre de réponse qu'on obtient dans les régimes fascistes, lui répliqua l'agitateur de génie, qui réussit donc, avec l'occupation du 22 mars, à faire fermer l'université nanterroise. Et la rumeur se répandit d'ailleurs, comme la preuve de son charisme d'exception, que Dany le Rouge avait une aventure amoureuse avec la fille du dit ministre, Françoise de Panafieux, qui aujourd'hui encore a toutes les peines du monde à couper la tête de ce canard.
En effet, ce 22 mars fut donc d'abord un mouvement étudiant.
Et il fallut plusieurs mois, ainsi que l'occupation de la vénérable Sorbonne, puis sa fermeture le 3 mai, pour que quasiment toutes les catégories de la population embrayent sur une remise en cause globale et radicale de la société. Mais le contexte alors était celui de la croissance des 30 glorieuses, et non des 30 piteuses. On était en révolte contre l'autorité, alors qu'on réclame désormais plus d'autorité. On ne voulait pas perdre sa vie à la gagner, alors qu'aujourd'hui, beaucoup voudraient gagner mieux leur vie pour ne pas la perdre. La gauche était forte, elle est divisée. La CGT de lutte des classes était le premier syndicat ouvrier. Aujourd'hui, c'est la CFDT, force de négociation. Ajoutons que personne, enfin à ce que je sache, ne manifeste pour avoir accès au dortoir des demoiselles. Et l'on ne prête pas d'aventures galantes, farfelues et mythologiques à Philippe Martinez avec quelques filles de ministres que ce soit.
Ah bon ?
Non, le 22 mars 68, c'était vraiment il y a très longtemps. La preuve encore, c'est qu'il est un slogan 68-art qu'on n'entend pas dans les cortèges manifestants, mais dans les allées du pouvoir. « Cours, camarade, le vieux monde est derrière toi. » Car l'ancien monde serait dans la rue et le nouveau à l'Élysée, avec le soutien de qui ? De Daniel Cohn-Bendit, qui marche avec Macron, pas avec les manifestants.
Nicolas de Menac.